France Culture.
Cette semaine, entendez-vous, l'écho se penche sur une notion, celle de transmission, capital, symbolique ou financier, patrimoine, mais aussi souvenir et savoir. Comment l'idée même qu'une génération nous a précédés et qu'une autre est en train d'advenir influe-t-elle sur les décisions des agents économiques, de la cellule familiale à la mémoire collective? Nous nous interrogerons donc sur ce que transmettre veut dire aujourd'hui comme hier. Et aujourd'hui, c'est à une figure parfois élevée au rang de mythe que nous consacrons l'heure qui vient, les dynasties familiales qui incarnent une certaine idée d'un capitalisme capable de résister au temps et de mobiliser des ressources très particulières, un nom, des relations, la promesse aussi d'une certaine stabilité. Mais rares sont les entreprises capables de perdurer sur plusieurs générations et plus rares encore sont celles qui parviennent à le faire sans connaître tensions et conflits qui passent souvent du cercle familial aux affaires et inversement. C'est ce que montre les exemples emblématiques des familles Lazard et Rothschild. Le secteur financier est soumis depuis les années 80 à des bouleversements majeurs qui modifient l'essence même du métier. Face aux perturbations amenées par la financiarisation, chacun tente de survivre et de perdurer tout en conservant ses intérêts bien compris avec un recours ultime, celui d'un nom, véritable actif dont la valeur attend bien le nombre des années et qu'il faut donc continuer à faire fructifier. Dynastie familiale, un nom pour capital, c'est le sujet de cette émission programmée et préparée par Tina Young, réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde aujourd'hui par Mineta Diawara. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Arthur Miguel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes doctorant en sociologie au sein du laboratoire IRISO à l'Université Paris-Dauphine PSL. Vous travaillez précisément sur les dynasties financières, puisque votre thèse porte sur le cas des familles Lazard et Rothschild. Également avec nous, mais à distance depuis les studios d'ICI à Besançon, grâce à Robin Boutry, qui assure ce duplex et je l'en remercie, Jean-Claude Domas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite à l'université Marie et Louis Pasteur à Besançon et membre de l'Institut universitaire de France. Vous êtes un grand spécialiste d'histoire économique. Vous avez publié un dictionnaire historique des patrons français en 2010. Et plus récemment, on peut citer la révolution matérielle, une histoire de la consommation en France et les révolutions du commerce. Et je précise que vous préparez actuellement un livre justement sur l'histoire de la société de consommation en Europe. Et pour commencer à entrer au cœur de ces familles et donc des entreprises qui portent leur nom, je vous propose d'écouter la voix de Laurence Parisot, ancienne présidente du Mouvement des entreprises de France, le MEDEF, entre 2005 et 2013, et successeur du groupe Parisot, fondé par son grand-père en 1936, spécialisé dans la fabrication de meubles.
Il y avait deux moments distincts. Le petit déjeuner où mon père retrouvait son père, mon grand-père, mais aussi mon père retrouvait ses frères, mes oncles. Et il y avait ce petit déjeuner chez ma grand-mère tous les matins, avant que chacun d'entre eux parte travailler à l'usine, comme on disait. À l'époque, on ne disait pas on va travailler à l'entreprise, on va au bureau. Non, c'est on va à l'usine. C'est dire à quel point la famille et le travail n'étaient pas séparés. C'est dire aussi à quel point les liens à l'intérieur de la famille étaient incroyablement étroits, incroyablement solides et profonds. Ce qui fait que quand plus tard, des décennies après, la famille se déchire autour de la question de l'avenir de l'usine, ce déchirement est d'une violence et provoque des douleurs inouïes. Et c'est peut-être aussi une des caractéristiques du capitalisme familial. Il peut être très heureux et porteur de succès magnifiques, mais il peut aussi basculer vers l'échec et le chagrin.
Jean-Claude Domas, Laurence Parisot parle ici de capitalisme familial. Qu'est-ce qui le caractérise fondamentalement? À quelles conditions peut-on parler de capitalisme familial, d'entreprise familiale?
Alors, pour qu'on puisse parler d'entreprise familiale, il faut que qu'on ait une association, une articulation entre une famille et une entreprise. Et c'est ce qui la distingue des entreprises que l'on pourrait qualifier de managériales. Et elle est confrontée à un type de problème totalement spécifique qu'on ne rencontre pas dans les entreprises à capital ouvert. Le premier de ces problèmes, c'est le maintien, la perpétuation, la préservation de l'unité et de la confiance au sein de la famille. Et le second problème, c'est la transmission intergénérationnelle, avec le choix et la formation du successeur. Et c'est deux points où se joue toujours l'avenir de l'entreprise. Alors, évidemment, si on considère le premier point, donc l'unité au sein de la famille, c'est une question très importante parce que il faut arriver à régler la question du rapport entre les différentes branches. Dès qu'une famille devient un peu importante, s'il y a eu plusieurs fils, par exemple, du fondateur, eh bien, inévitablement, il y a 2, 3, 4, 5 branches. Et à la génération suivante, il faut régler le problème du partage du capital et du pouvoir entre les branches. Le deuxième problème qui se pose, et plus il y a de membres de la famille, plus le problème va devenir délicat à gérer, c'est le rapport entre les actionnaires, les membres de la famille qui sont actifs dans l'entreprise et ceux qui ne le sont pas. Et ceux qui ne le sont pas tiennent à néanmoins à avoir des bénéfices symboliques ou matériels, et en général plutôt et que seulement ou, de leur appartenance à la famille qui contrôle l'entreprise. Et on sait bien que lorsque un patron, un PDG, néglige les actionnaires passifs extérieurs à l'entreprise, eh bien il s'expose à de gros risques. Hein. On l'a vu par exemple avec le domaine viticole de Château-Yquem, où le comte de Lursalus ne versait pas de dividendes aux membres de sa famille, si bien qu'ils en ont éprouvé beaucoup de mécontentement et qu'ils ont répondu très favorablement aux offres de rachat de leur part par Bernard Arnault. Et si bien que le comte s'est trouvé à devoir quitter l'entreprise qu'il avait dirigée jusque-là parce qu'il ne contrôlait plus ni le capital ni le pouvoir.
Et on voit là qu'il y a effectivement de nombreuses sources de tensions. Jean-Claude Domas, je me permets de préciser, vous avez parlé de la très grande difficulté de faire cohabiter les branches à fur et à mesure que les générations s'enchaînent et que l'arbre généalogique finalement s'étend. Il faut quand même bien distinguer là peut-être entreprise familiale et dynastie familiale. Les dynasties familiales sont encore plus confrontées à ce problème dans le sens où elles sont définies justement par un certain nombre de générations concernées dans la transmission de cette entreprise.
Parce que l'entreprise familiale est une entreprise où la famille possède et contrôle l'entreprise. Hein. Enfin, possède et contrôle l'entreprise et le capital et la dirige. Ce sont les deux points importants. Contrôle du capital et direction. Mais pour qu'on ait affaire à une entreprise familiale, il faut encore qu'il y ait le projet de transmission à la génération suivante, si bien que les historiens considèrent qu'une entreprise est familiale à partir de la deuxième génération. Et pour qu'on puisse parler d'entreprise dynastique, il faut que l'entreprise familiale se soit véritablement inscrite dans la durée, et nous avons plutôt pour habitude de considérer que c'est au-delà de la troisième génération que commence une véritable dynastie. Hein. Alors, ça peut paraître un peu artificiel, mais c'est des distinctions qui permettent de s'y retrouver, de faire le tri entre les différents types d'entreprises et de voir quels sont les problèmes auxquels elles sont confrontées et les logiques qu'elles mettent en œuvre.
Arthur, Miguel, si on reprend tout ce qu'on vient d'entendre, s'il y a à la fois l'idée potentiellement de conflits, on va bien sûr y revenir, mais sur l'étude, on va dire, du rapport entre les différentes branches au fur et à mesure que les générations s'étendent, le rapport aussi entre membres actifs et les membres qui ne le sont pas, et puis l'idée aussi de perdurer à travers les générations. De ce point de vue-là, les deux familles que vous étudiez particulièrement, les Rothschild et les Lazard, correspondent bien à cette définition des dynasties familiales. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez décidé d'étudier ces deux cas particuliers ?
Oui, tout à fait. En fait, quand j'ai été amené à m'intéresser au secteur directeur de la banque d'investissement au tournant du 21e siècle, au début du siècle, je me rends compte qu'il y a deux banques qui se dégagent, deux banques d'investissement, Lazard et Rothschild. Elles se dégagent puisque les familles sont toujours à la tête de ces deux grandes banques d'investissement. C'est une exception que j'observe sur le début du XXIe siècle, et c'est en cela que je choisis de m'intéresser à ces deux banques et à ces deux familles. Donc d'un côté, pour le groupe Rothschild, la famille Rothschild, et la famille David Vail pour le groupe Lazard. Ce qui est intéressant, c'est, et on va sûrement y venir, aujourd'hui, Rothschild est... dans ce secteur, la dernière famille à posséder, à diriger une grande banque d'investissement, étant donné que la famille David Vail va perdre le contrôle de sa banque au milieu des années 2000.
Et on va voir effectivement dans quelles circonstances et pour quelles raisons. C'est ce qui est très intéressant, c'est que vous avez parlé d'une exception à l'instant, Arthur Miguel. Jean-Claude Domas, est-ce que c'est cela aussi qui explique la forme de fascination que l'on a finalement pour ces fameuses dynasties familiales? C'est parce qu'elles restent des exceptions. C'est finalement très rare de parvenir à ce seuil de la troisième génération.
Pas au seuil de la troisième génération, enfin, au seuil de la quatrième.
De la quatrième, oui.
Et oui, c'est un phénomène qui est rare. Et parce que ces familles fascinent pour deux raisons, en fait. D'un côté, elles font la preuve de la possibilité de la continuité sur la longue durée. Et de l'autre, elles accumulent richesse et pouvoir. Et si on prend le cas le plus évident de fascination, c'est Rothschild. Hein. Mm. Et les Rothschild sont passés, il n'y a pas de mythe Lazare, mais il y a un mythe Rothschild. Hein. Et ce mythe Rothschild peut se résumer en une formule qui est riche comme Rothschild, qui a remplacé le riche comme Crésus. Mm. Et d'autre part, ces familles dynastiques, quelles qu'elles soient, d'ailleurs, et pas simplement les deux familles de banquiers, fascinent toujours aussi parce que elles ont, c'est secondaire, mais c'est néanmoins important pour l'image du nom, elles ont toujours un mode de vie qui est d'abord fastueux, imité de la noblesse. Par ailleurs, elles sont engagées activement dans la société, à travers la philanthropie et le mécénat. Souvent aussi, et alors c'est le cas là de la famille Rothschild, elles sont liées à de grandes opérations de financement et fortement liées à l'État. Donc on a une série de facteurs, si vous voulez, qui contribuent à porter sur le devant de la scène ces familles. Alors aujourd'hui, si on prend le cas de Rothschild, il est évident que la fascination qu'elle suscitait, que suscitait la famille et la banque, est beaucoup moins importante que encore dans les années 70-80, et bien sûr qu'au 19e siècle, à l'époque de James, le premier membre de la branche française.
Mais, et d'ailleurs, je me permets de rebondir, Jean-Claude Domas, sur cette idée de fascination et puis qui potentiellement s'estompe ou au contraire se renforce. C'est ce qu'on peut lire dès la préface de votre fameux dictionnaire. Les maîtres de forge, les Wendel ou les Schneider, les représentants de la haute banque, les Rothschild ou les Lazard, les rois du textile, les Mott ou les Prouveau, ont quitté le devant de la scène. D'autres figures du capitalisme prenant leur place sous les projecteurs, les Bouygues, Arnault, Lagardère, Bolloré, Louis Dreyfus et autres Mulliez, sans parler bien sûr des managers du CAC 40. De quoi une telle mutation est-elle le nom, selon vous? On parle toujours bien de dynastie familiale, y compris dans le cas des Arnaud, des Lagardère, dans un cas comme dans l'autre. Donc, comment expliquer cette forme de remplacement?
Alors, d'abord, dans le cas de Arnaud comme de Lagardère, je crois que Lagardère sort du jeu, mais dans le cas d'Arnaud, on n'en est pas encore à la dynastie. Hein. On peut parier qu'on est inscrit dans une dynamique dynastique, mais on n'a pas encore atteint la quatrième génération. Si les dynasties disparaissent, c'est d'abord parce que elles sont exposées comme les autres entreprises aux mêmes difficultés. Et soit on y trouve des solutions, soit on ne les trouve pas. Et que l'entreprise soit managériale ou qu'elle soit dynastique ne change pas grand-chose, on disparaît. Donc c'est le mouvement normal, je dirais, des affaires dans une société capitaliste. Et Et puis, il y a les difficultés qui sont spécifiques aux entreprises familiales. La première difficulté, je le disais il y a un instant, c'est de maintenir l'unité, parce que c'est la condition de base de la pérennité de l'entreprise. Et puis, par ailleurs, c'est la deuxième condition, c'est être capable de passer d'une génération à l'autre. Ce qui veut dire qu'il faut savoir préparer la succession, la transmission du capital et du pouvoir. Et il faut donc choisir un héritier qui fera autour de lui l'unité de la famille, qui aura une sorte de légitimité à la fois professionnelle historique, et qui sera capable de lancer l'entreprise dans une nouvelle dynamique. Parce qu'il y a quelque chose qui est très frappant, en fait, c'est que les dynasties n'arrivent à se maintenir dans le temps que lorsqu'il y a une véritable révolution dans les produits, les marchés, les méthodes, à chaque génération.
Pour les
dynasties. C'est-à-dire que si on reste dans la routine, eh bien, l'entreprise va peu à peu s'affaiblir, risque de dépérir et de devenir finalement de prendre le chemin de la sortie.
Donc on le comprend finalement, ce qui concerne l'intégralité des entreprises concerne donc de fait par ce biais-là les dynasties familiales également. Arthur Miguel, est-ce que vous avez fait ce même constat que finalement, bon, on a déjà un peu évoqué le cas des Lazare hein, au tout début des années 2000, mais même pour les Rothschild, il y a cette idée d'un relatif effacement que des grands noms de managers, comme le disait Jean-Claude Domès du CAC 40, ont peut-être pris le devant de la scène et que les Rothschild incarnent peut-être une forme plus passéiste aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils incarnent de façon très, très concrète ?
Je dirais que pour les Rothschild, il y a aussi l'importance de la discrétion. C'est véritablement quelque chose de voulu, cette discrétion. Et cette discrétion, elle a une volonté, c'est de préserver le nom, en fait, de ne pas abîmer le nom, de maintenir, je dirais, la noblesse de ce nom, parce que ce nom, c'est le principal actif des Rothschild. C'est leur principal actif, et je dirais, pour revenir sur la question des dynasties qu'on évoquait précédemment, il y a un effet de, comment dire, à mesure qu'une dynastie arrive à perdurer dans le temps, je dirais que le capital, qui est son nom, gagne en puissance. Il y a un effet d'entraînement.
Oui.
Donc c'est ça aussi qui permet à la famille Rothschild de résister plus facilement aux chocs, qu'ils soient exogènes ou endogènes, internes au groupe ou externes. C'est la puissance de son nom, tout simplement. Pour revenir sur la question de la transmission, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Et peut-être que ça nous permet de revenir sur la transmission récente qui a eu lieu au sein du groupe Rothschild. En tout cas pour sa branche française. Donc on a eu récemment une succession qui s'est produite à la tête du groupe où Alexandre de Rothschild a pris la tête du groupe à la place de son père. Et je pense qu'on peut parler du point de vue des dynasties des entreprises capitalistes et des dynasties financières d'un cas d'école d'une transmission réussie. On a un héritier qui a été préparé, qui a fait, je dirais, un parcours qui est assez proche de celui d'un manager classique de la finance, donc qui a commencé par une grande école de gestion, qui a ensuite fréquenté différentes institutions financières avant de retourner dans le groupe familial, et il a monté petit à petit les échelons, bien sûr un peu plus rapidement qu'un manager classique, mais il a monté les échelons avant de prendre la tête du groupe, et son père David de Rothschild s'est retiré progressivement. Donc d'abord en 2018, c'est Alexandre de Rothschild qui devient président du groupe, tandis que David de Rothschild devient président du conseil de surveillance. En 2023, donc David de Rothschild se retire d'une certaine manière, il devient président d'honneur du groupe, laissant la place à Marc-Olivier Laurent. Et donc on voit que c'est une sortie progressive, c'est une sortie accompagnée.
C'est une sortie accompagnée, effectivement, progressive, puisque en 2013, Alexandre de Rothschild est nommé associé gérant. En 2014, il est au conseil de surveillance de la société. Et en 2017, il est vice-président exécutif avant d'être désigné en mai président exécutif. Donc on le voit, c'est progressif, mais c'est rapide tout de même. Et puis, il y a ce que disait Jean-Claude Domas, c'est cette idée aussi de capacité d'innovation. Alexandre de Rothschild, alors du fait de sa formation à la fois théorique, mais surtout pratique, aux côtés de son père et de certains mentors, propose une nouvelle façon aussi de concevoir les services proposés par la banque Rothschild. Il propose notamment de développer une branche de capital investissement. Il il met des choses sur la table, on va dire. Ça correspond aussi, quelque part, Arthur Miguel, à cette idée que pour perdurer dans le temps, il faut savoir innover, y compris dans un secteur très, 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 très ancien où l'on est depuis très, très longtemps, dans le cas des Rothschild.
Tout à fait, mais ça, on pourrait dire que c'est lié, ça correspond à toutes les entreprises qui ont besoin, en fait, d'innover pour résister à la concurrence. Ce n'est pas quelque chose qui est propre aux entreprises familiales, mais c'est vrai que de ce point de vue, si on reprend l'histoire longue des Rothschild, ils ont été à l'avant-garde de différentes innovations financières, oui.
Jean-Claude Domas, vous souhaitiez réagir ?
Oui, sur un point. Tout ce que vient de dire Arthur Miguel est très juste. Je souhaiterais juste nuancer sur une question. C'est la question de la formation. Il n'a pas suivi une formation proche de celle des managers contemporains, des entreprises managériales. Pardon, excusez-moi. Il n'a pas suivi une formation si différente de celle qu'avaient suivi ses ancêtres. En effet, c'est une caractéristique très générale des entreprises familiales que de mettre les héritiers futurs de leur mettre le pied à l'étrier dans les entreprises où il y avait une production manuelle, par exemple dans le textile, ils pouvaient débuter à l'atelier, mais ensuite, une fois les études achevées, tous font à peu près le même circuit, c'est-à-dire qu'on travaille dans des entreprises amis, souvent, très souvent quand on le peut et quand c'est utile à l'entreprise, à l'étranger, c'est ce qu'a fait Alexandre de Rothschild. Et puis quand le PDG estime que la formation est achevée et qu'elle a donné des résultats satisfaisants, on le rappelle à la direction de l'entreprise où là on va l'associer de très près à la marche des affaires, de manière à ce que il y ait une sorte de tuilage et qu'il puisse prendre la suite du père de manière fluide, sans que celui-ci s'accroche au pouvoir, ni que l'héritier ne ressente la nécessité de tuer le père. Donc, ce type de parcours est très classique. Et là, évidemment, puisqu'on a affaire à des banquiers, il l'a fait dans des entreprises financières. Mais pour le reste, c'est pas très différent de ce qu'avaient fait ses ancêtres. Hein. Le premier, James Rothschild a accompagné son père très jeune chez les clients. Là, on avait une formation type 19e, pas d'études ou très peu, et puis pratiquement on était mis. On était sur le tas tout de suite. Dès la deuxième génération, il y a des études, mais on retrouve cette espèce d'apprentissage très long par la pratique, qui prépare l'héritier et qui lui donne la légitimité nécessaire. Là, par exemple, la création de la division capital investissement par Alexandre, ouais. Avec l'aide d'un associé que David avait choisi pour lui servir de mentor et a pour but à la fois de vérifier qu'il a les aptitudes nécessaires, mais aussi de lui donner une sorte de légitimité historique. Hein, il a fait ses preuves, il est maintenant en mesure de diriger l'entreprise et de prendre la suite et de donc continuer l'aventure qui a commencé plusieurs générations avant lui.
C'est exactement ce que décrit un article du Monde, hein, qui revient sur cette dynastie des Rothschild, et il le dit, Alexandre et ce fameux mentor font du private equity, le troisième pilier de l'entreprise. Pas à pas, Alexandre fait ses preuves, c'est bien là tout l'enjeu. Arthur Miguel, vous souhaitiez réagir également?
Oui, c'est très intéressant et je suis d'ailleurs tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. En fait, il a une carrière qui est un petit peu une synthèse entre des carrières familiales anciennes et des carrières qu'on peut qualifier aujourd'hui de managériales. C'est-à-dire que si on prend effectivement les managers qui ne sont pas familiaux au sein de la famille Rothschild, et même dans les grandes entreprises du CAC 40, au niveau des écoles, on est sur des grandes écoles. On est sur HEC, on est sur l'ESSEC, on est de plus en plus sur des écoles de gestion. Il y a quelques restes polytechniques et et effectivement, ce n'est pas des écoles de gestion un peu secondaires comme ça a été le cas ici, mais il y a quand même l'idée qu'il faut un diplôme pour pouvoir diriger. Ensuite, comme ça a été dit, les carrières évidemment sont La carrière professionnelle a été plus rapide ici. Pour ce qui est des managers plus classiques, on a une autre succession d'étapes, on a un autre cursus honorum, si je puis dire, avec effectivement quelque chose d'un peu plus long et qui ne mène pas forcément au sommet. Oui, je dirais que c'est ça qui est intéressant avec la carrière d'Alexandre de Rothschild, c'est qu'il y a la volonté d'avoir d'un côté la légitimité familiale, évidemment, mais aussi une légitimité nouvelle managériale. Ne pas être catapulté à la tête de la banque, mais pouvoir s'appuyer sur cette forme de légitimité nouvelle.
Arthur, Miguel, au vu de tout ce que l'on vient de dire, est-ce que vous considérez que le secteur financier spécifiquement est particulièrement propice à la constitution de dynastie, ou est-ce que, on a retenu deux noms, Lazare et Rothschild, est-ce que ce sont des exceptions, ou est-ce qu'il y a quand même un terrain plutôt fertile en la matière? Parce que je vais nécessairement poser la question à un moment de comment on arrive à passer justement d'entreprise familiale à dynastie familiale. Est-ce que le secteur financier est particulièrement propice, dans le sens où notamment il permet d'avoir ce double alliage d'une formation pratique et d'une formation théorique?
Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et si, on change un peu de cadre et qu'on va du côté des États-Unis, on a eu beaucoup de grandes entreprises financières qui sont issues de familles fondatrices.
On peut prendre les
Goldman Sachs, les Lehman, comme vous le dites, et d'autres. Et en fait, ce qui se passe dans énormément de cas, c'est que très rapidement, au fil de une, deux générations, et bien tout simplement la famille se retire de la direction et la direction est confiée à des managers. En y réfléchissant comme ça, non, je ne pense pas qu'il y ait une spécificité des banques d'investissement là-dessus.
France Culture.
Mon cher, je sais que le dicton veut qu'on ne prête qu'aux riches, mais on ne leur prête pas à 20%.
Entendez-vous l'écho?
Je ne demanderais pas mieux que de passer votre argent dans la famille Rothschild, malheureusement.
Oh, mon cher maître, je vous en prie, hein, entre le baron Édouard et un train de patin comme Eric, il y a une marge.
Aliette Ovine.
Jean-Claude Domas, la question se pose, qu'est-ce qui permet à certaines entreprises familiales de devenir des dynasties? Est-ce que c'est une question de secteur, d'ancrage territorial? Vous soulignez dans votre ouvrage, dans votre fameux dictionnaire, qu'on compte relativement peu de dynasties normandes et qu'à l'inverse, l'Alsace est la région qui a vu naître le plus grand nombre de dynasties d'entrepreneurs. Alors est-ce que c'est une affaire de spécialisation ou de disposition culturelle spécifique, on pourrait le dire ainsi?
Dans le cas de la comparaison entre l'Alsace et la Normandie, c'est pas une affaire sectorielle, parce que d'un côté on avait affaire à du coton. C'est plutôt une question de disposition culturelle. C'est-à-dire que d'une part, on a des familles qui sont nombreuses. Et c'est indispensable si on veut avoir des héritiers capables de prendre la suite. Parce que, comme on applique une règle très simple, c'est ni femme, ni gendre, il faut absolument des héritiers masculins. Donc s'il n'y en a pas, l'aventure s'arrête. Du moins au 19e, parce que on n'avait pas encore pris l'habitude, ou très rarement, de faire appel à des managers extérieurs qui travaillaient pour le compte de la famille, et qui, par exemple le cas de L'Oréal, hein, où la famille Bettencourt recrute, depuis la mort du fondateur Schuller, des managers de très haut niveau, d'ailleurs tous qui ont fait leur carrière dans l'entreprise même, avant d'en devenir le PDG. Et donc ça, c'est nouveau. Mais au 19e siècle, on ne fait pas ça. C'est le fils qui doit diriger, donc il faut avoir une famille nombreuse. En Normandie, on tourne plutôt autour de deux enfants, trois maximum. En Alsace, les familles dépassent allègrement les 6 ou 7 enfants. D'autre part, parce qu'ils sont protestants, ils ont le goût alors qu'en Normandie, c'est la religion catholique qui domine, ils ont le goût de l'étude, et donc il y a très tôt, et dans à peu près toutes les branches, une dimension scientifique à leur formation qui est importante. Et puis il y a quelque chose qui est très fort, si vous voulez, c'est le autant en Normandie, ces patrons ont un comportement, à la fois individualiste et en même temps, enfin individualiste et en même temps, ont la volonté très répandue, une fois qu'ils ont fait fortune, de se retirer des affaires. Ce n'est pas le cas du tout en Alsace, où au contraire, il s'agit de poursuivre la trajectoire familiale. Et dès lors que, vous voyez, on a une série, il y en a encore d'autres, hein, mais une série de points, d'aspects sur lesquels il y a une opposition très forte, on comprend mieux pourquoi en Alsace, les dynasties au XIXe siècle ont été si nombreuses. Mais le mécanisme s'est complètement cassé avec les guerres et les annexions, les entreprises ont rarement pu poursuivre leur dynamique. Les fils ont continué certes de faire des études, mais au lieu de revenir dans l'entreprise, ils ont fait carrière dans la science ou la diplomatie. Et puis d'autre part, le nombre d'enfants par famille s'est progressivement réduit, c'est-à-dire qu'ils ont calqué leur comportement sur celui de la population société, majoritaire. Oui. Hein, et sur les deux points, le nombre d'enfants et l'investissement dans l'entreprise. Au contraire, on leur dit en général, tu fais ce que tu veux. Si bien que peu à peu, outre les chocs très brutaux que l'économie alsacienne a subi à la suite de la guerre de 70-71, la guerre de 14, la Deuxième Guerre mondiale, qui n'ont pas facilité les choses, qui ont affaibli les, matériellement, financièrement, les dynasties, on a une deuxième série de facteurs qui sont internes à ces familles et qui expliquent très bien pourquoi, finalement, toute une série de dynasties, de familles très vieilles, hein, parfois 6-7 générations, ont disparu les unes après les autres. Et aujourd'hui, on n'a plus que des restes, je dirais, quasi fantomatiques.
Un phénomène de disparition, Jean-Claude Domas, mais ce qui est intéressant, c'est qu'une étude d'Euronext apparue en mars dernier, en mars 2025, selon laquelle 21,2% du CAC 40 était détenu par des familles qui se trouvent donc juste derrière les gestionnaires d'actifs qui représentent 25,2% de l'actionnariat, tandis que les investisseurs particuliers représentent 5,4% de cet actionnariat-là. Or, en 2012, la part des familles dans le capital du CAC 40 était bien inférieure, elle était seulement de 9,7%. On ne peut pas parler en soi d'un déclin du capitalisme familial, Jean-Claude Domas.
Ah non, certainement pas. Mais précédemment, j'évoquais simplement le cas d'une région particulière qui est l'Alsace. Je suis convaincu, et je l'ai écrit à de très nombreuses reprises, que le capitalisme familial n'est pas condamné par le développement de formes managériales de capitalisme. Il n'est pas condamné du tout à une double condition, que d'un côté, il soit capable d'entretenir et de renouveler les traditions familiales dont on a parlé tout à l'heure, et que de l'autre côté, il fasse les bons choix économiques. Et les entreprises auxquelles vous faites allusion, si on prend par exemple la famille Arnault qui est à la tête de LVMH, on voit bien que il y a cette volonté de s'inscrire dans le temps et par ailleurs une politique intelligente qui permet au groupe de se développer. Mais on pourrait dire la même chose de Bouygues, de Hermès et de beaucoup d'autres groupes qui sont à base familiale.
Et ce qui est intéressant par ailleurs, puisque vous le dites vous-même dans de nombreux écrits, que le capitalisme familial, en tout cas les entreprises familiales qui ne sont pas encore des dynasties, ont été longtemps accusées d'un certain esprit rétrograde ou en tout cas conservateur, ou d'être centré uniquement sur leurs intérêts, ce qui les empêcherait justement de s'adapter, d'innover et donc de perdurer. On voit bien là que ce n'est pas tout à fait le cas. Alors, pour comprendre comment les particularités du capitalisme familial s'incarnent dans la version dynastique, on va dire, et plus particulièrement dans le secteur financier. Une famille, nous l'avons dit, va nous servir de fil rouge, c'est la famille Rothschild, et il nous faut là remonter aux origines, ce que fait également Interactualité en avril 1967.
Michel Duchaussois, je voudrais vous demander si la date de 1816 vous rappelle quelque chose.
Non.
C'est la question piège, là.
Oui.
Eh bien, imaginez qu'il y a exactement 150 ans, un certain James de Rothschild, voilà en tout cas un nom qui vous rappelle quelque chose, James de Rothschild qui était le fils de Meyer Amschel Rothschild, négociant, devenu banquier à Francfort par la suite, James de Rothschild fondait à Paris l'établissement célèbre qui ce matin précisément fêtait son 150e anniversaire. Rothschild, vous savez, c'est un nom qui reste dans l'esprit du grand public le véritable synonyme de richesse. Cette réputation, il faut le dire, a été exacte surtout pendant le 19e siècle. Les Rothschild ont été les banquiers de tous les régimes qui se sont succédés. Et ils ont su, il faut le dire, admirablement comprendre leur époque, c'est-à-dire celle de la révolution industrielle. Le baron James, par exemple, s'était lancé avec une certaine passion dans l'aventure du chemin de fer.
Arthur Miguel, pour bien comprendre, il faut nous rappeler là dans quel domaine financier spécifique les Rothschild implantent leur nom et bâtissent aussi leur dynastie. C'est de la banque dite d'affaires. Quelles en sont les caractéristiques fondamentales ?
Si on essaye de trouver une définition qui permet d'englober toutes les activités de la banque d'investissement, on pourrait dire que les banques d'investissement sont des institutions financières qui facilitent l'émission et la vente des valeurs mobilières, donc les actions et les obligations des entreprises ou des États. Pour essayer d'être plus simple, on peut dire que les banques d'investissement essayent de trouver les fonds nécessaires aux opérations des États et des entreprises et qu'elles les conseillent aussi également sur l'utilisation de ces fonds.
Jean-Claude Domas, qu'on entendait également dans cette archive, au-delà de cette incarnation du nom synonyme de richesse que vous avez évoqué en début d'émission, il y a cette idée aussi d'une forme de spécificité française. Alors on l'a dit, il y a des noms aux États-Unis qui incarnent aussi tout un pan de la finance, les familles Goldman, Sachs, Lehman, Morgan et Stanley. Est-ce que pour autant le capitalisme familial, et en tout cas la notion de dynastie familiale, est une spécificité française? Est-ce qu'il faut tout de même rendre cela à la France d'une certaine manière?
Oh, pas du tout. C'est une spécificité du capitalisme, mais pas de la France. C'est-à-dire qu'on trouve des entreprises familiales et des entreprises dynastiques dans absolument tous les pays. Alors, les proportions peuvent varier en fonction de l'histoire propre de chaque pays, mais il suffit, par exemple, de penser à la famille qui contrôle Fiat, et on a affaire à une dynastie. Et une dynastie puissante, active, qui occupe devant de la scène depuis des dizaines et des dizaines d'années. Non, c'est un phénomène qui est, je crois, lié au capitalisme, en ce sens que vous avez toujours des gens, des familles, qui sont prêtes à investir pour améliorer, parce qu'au départ c'est de cela qu'il s'agit, leur situation sociale, d'une part, et d'autre part, réaliser un projet qui va contribuer à la transformation de la société. Et c'est ce qui est toujours au point de départ de ces aventures familiales, alors qui peuvent capoter très vite, ou qui, lorsque on a à la fois des circonstances favorables et d'autre part une réunion de talents, qui peuvent au contraire se prolonger dans le temps et aboutir à des réussites remarquables. Et il n'y a pas non plus de spécificité sectorielle. C'est-à-dire qu'on trouve des entreprises familiales dans absolument tous les secteurs de l'économie. Hein. Les noms que vous avez cités en citant le dictionnaire des patrons montrent bien qu'ils sont partout. Et alors, il y a évidemment une évolution pour la France, mais c'est évidemment la même chose dans les autres pays européens, entre le 19e et le 20e siècle. C'est-à-dire qu'on avait plutôt, par exemple, la sidérurgie et les mines. Aujourd'hui, la sidérurgie et les mines ont pratiquement quitté l'Europe, donc ils sont dans d'autres secteurs. Hein, ça peut être la communication ou la publicité, le luxe ou l'informatique, peu importe. Mais il marche avec les évolutions de l'économie et ils investissent de nouveaux secteurs en fonction des opportunités et des moyens dont ils disposent. Hein. Il faut un accord entre les deux pour que on puisse aller de l'avant.
Alors justement, pour bien comprendre comment les Rothschild, entre autres, se sont adaptés aux évolutions de l'économie, Arthur Miguel, il faut préciser une chose importante. On l'a dit, hein, pour parler de capitalisme familial, il faut qu'il y ait la propriété du capital, le contrôle de la direction et puis l'intention de transmettre l'entreprise à la génération suivante. Est-ce que chez Rothschild, comme chez Lazare par ailleurs, ceux qui n'appartiennent pas à la famille, qui ne font pas partie du clan familial, ont-ils pour autant voix au chapitre? Est-ce qu'on peut être intégré à la direction de l'entreprise quand bien même on ne porte pas le nom de Rothschild, par exemple?
Ça, c'est vraiment pour moi la vraie différence de Rothschild, c'est que au sein de la famille Rothschild, le contrôle reste au sein de la famille. Dans les différentes sociétés, dans les différents groupes, le contrôle reste assuré par la famille. J'ai pu justement opérer une comparaison avec la banque Lazare, où la famille David Weil était dominante, mais le patriarche de la famille David Weil était là comme une sorte de primus inter pares, donc premier parmi les pères. Il était le premier des associés. Il avait plus de pouvoir que les autres, mais il devait composer avec un certain nombre d'associés puissants qui étaient ramenés les deals, étaient au centre de certains réseaux et donc étaient indispensables au bon fonctionnement de la banque. Je dirais que chez Rothschild, encore une fois, la puissance du nom fait que la famille est relativement autonome vis-à-vis de ses associés gérants.
Mais justement, justement, Arthur Miguel, peut-être insister sur ce que sont ces associés gérants, justement, et quel statut juridique leur est associé et qui retrace aussi celui de la société en général.
Tout à fait. Pour aller très vite, on peut considérer que les associés gérants sont les cadres dirigeants des sociétés de fusion et acquisition, donc des sociétés de conseil des groupes. Ce statut d'associé gérant est très lié à un statut juridique très particulier dans le droit des entreprises, qui est celui de la société en commandite simple. Pour aller vite peut-être et essayer de faire comprendre ça, la société en commandite simple est assez différente d'une société anonyme. Vous avez deux types d'associés, donc des commandités et des commanditaires. Donc les commandités dirigent l'entreprise, sont responsables des pertes de l'entreprise, donc engagent leur patrimoine en cas de perte. Tandis que les commanditaires, eux, sont des investisseurs silencieux qui ne sont pas responsables de ce qui est investi dans l'entreprise. C'est ce modèle juridique qui va être dominant dans la banque d'investissement et particulièrement dans les sociétés familiales du secteur de la banque d'investissement en France pendant un certain temps.
Pendant un certain temps, c'est-à-dire jusqu'au début des années 2000, nous l'avons dit, pour Lazard, et jusqu'en 1967 pour Rothschild Frères, année à partir de laquelle le groupe et donc la famille connaît un changement majeur dont là encore Interactualité se faisait l'écho en avril 1967.
Les Rothschild, alors en France, la dynastie actuellement est représentée par le baron Edmond, d'une part, le baron Edmond dont la fortune est évaluée à plusieurs milliards de francs actuels. Toutefois, le baron Edmond n'est pas copropriétaire de l'établissement financier de la rue Lafitte. Cette banque est actuellement gérée par les trois cousins, c'est toute la famille que nous sommes en train de développer, les trois cousins, c'est-à-dire le baron Guy, Alain et Élie, et cette banque ne vient aujourd'hui qu'au 11e rang des banques d'affaires françaises. Mais son importance dépasse toutefois le total des bilans. D'autre part, elle était la seule à appartenir encore à trois personnes privées. Et précisément, c'est la transformation de cet établissement en banque de dépôt ouverte au public qu'a annoncé ce matin, au cours d'une conférence de presse, le baron Guy de Rothschild. Et Jean Bas, bien sûr, lui a demandé les raisons de cette transformation, de cette mutation.
Ouverte au public ne veut pas dire simplement que ces guichets sont ouverts au public pour toutes les opérations qu'il souhaiterait vouloir y pratiquer, mais veut dire que la propriété de la banque va devenir la propriété majoritaire du public ou des actionnaires qui voudront bien s'y intéresser. Comment, par quels moyens? Ce n'est pas en vendant en bourse des actions Banque Rothschild, mais en cédant à la Compagnie du Nord, qui, elle, est répartie dans le public, qui a quelques 20 000 actionnaires depuis 110 ans, en lui cédant la majorité de la banque, que le public sera désormais intéressé dans la Banque Rothschild.
Vous devenez donc minoritaire dans votre banque.
C'est parfaitement exact. Nous serons les plus gros actionnaires de la Compagnie du Nord, de la maison mère, qui, elle, sera la majoritaire de la banque. Nous partagerons avec le public notre propriété et nos efforts et leurs fruits. Vous me demandez pourquoi faire une telle mutation. Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir que toutes les banques en France ont pratiqué d'une manière ou d'une autre une restructuration, soit individuelle, soit en s'agglomérant entre elles de différentes manières. Et en ce qui nous concerne, l'impératif de l'expansion, l'obligation d'aller de l'avant, sinon c'est la récession, le recul et finalement la mort, ne peut se faire qu'en s'ouvrant très largement, avec un grand courant d'air et dans une maison de verre, au public, aussi bien dans nos guichets, qu'en intéressant le public à nos affaires.
S'ouvrir largement au public, créer un grand courant d'air, Arthur Miguel, pourquoi une telle décision à la fin des années 60? À quel défi est confronté le secteur bancaire à ce moment-là et la maison Rothschild à plus forte raison?
C'est une tentative qui va être opérée par Guy de Rothschild, effectivement, transformer la banque en banque de dépôt et l'abandon, effectivement, de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le statut de le partenariat, en fait, pour aller vers une société anonyme plus classique. C'est un choix qui va être peu fructueux et la banque Rothschild va connaître des difficultés ensuite jusqu'à la nationalisation qui va s'opérer au début des années 80.
Alors justement, cette nationalisation, je vous propose de l'aborder parce que c'est effectivement un épisode fondateur. Toutes les banques d'affaires sont confrontées à cet épisode. En 1982, François Mitterrand annonce sa volonté de nationaliser les banques d'affaires, un projet qu'il évoquait déjà le 25 juin 1973 dans l'émission Actuelle 2.
Les banques de dépôt ont été toutes nationalisées en 1945 par le gouvernement du général de Gaulle. Vous savez que maintenant, d'après les dispositions qui ont été votées, je crois, en 1967 à l'initiative du gouvernement de M. Pompidou, vous savez qu'aujourd'hui, toutes les banques d'affaires sont des banques de dépôt et que les banques de dépôt ont tendance à devenir des banques d'affaires. De telle sorte que nous nous contenterions de parachever l'œuvre du général de Gaulle en nationalisant les banques d'affaires.
Françaises.
Et bien, françaises, naturellement. Eh bien, pour ce qui concerne les sociétés étrangères, elles tomberaient sous le coup du contrôle du gouvernement français pour que l'on évite que les sociétés multinationales, dont parlait tout à l'heure M. Habib Deloncle, ou que les sociétés allemandes ou italiennes puissent bénéficier de privilèges face aux sociétés d'État françaises.
Jean-Claude Domas, quelles vont être les conséquences de cette nationalisation pour la dynastie Rothschild qui, on le disait à l'instant, avait déjà été confrontée à certains remous, certains changements du secteur même à la fin des années 60 ?
Oh, les conséquences pour les Rothschild sont brutales dans un premier temps, puisqu'ils perdent bien sûr le contrôle de leur entreprise, ils perdent leur licence bancaire et ils perdent jusqu'à le droit d'utiliser leur nom comme marque commerciale.
C'est intéressant, ça dit quand
donc
même...
C'est un traumatisme réel qui est durement ressenti par la famille. Et d'ailleurs, Guy de Rothschild va publier dans le journal Le Monde une tribune qui a pour titre « Juif sous Pétain, paria sous Mitterrand ». Pour moi, ça suffit. Et il prend la route de l'exil, il va s'installer aux États-Unis. Donc on a un choc brutal, mais pour les Rothschild, en fait, a posteriori, ça apparaît plutôt comme une bonne affaire, parce que la banque, et on vient de le voir, connaissait de très sérieuses difficultés. Alors, en raison de ce projet de transformation en banque de dépôt, mais aussi parce que Guy s'intéressait beaucoup plus à l'industrie qu'à la banque elle-même et passait beaucoup de temps à s'occuper de ses chevaux. Et les 150 millions que la famille récupère sont finalement une véritable aubaine. Et c'est le fils donc de Guy, David, qui... Pour sa part, ne se destinait pas à travailler dans la banque, qui va décider de reconstituer une banque familiale. Et il va être soutenu à la fois par son cousin Eric, par la branche anglaise, par Edmond qui est à Genève. Il va s'appuyer sur son demi-frère et il va démarrer avec une partie donc de l'indemnité que la famille a reçue, donc 30 millions. Et assez vite, il va récupérer en 84 la licence bancaire et en 86 le droit d'utiliser le patronyme comme nom de la banque.
Donc il récupère son nom, ce fameux actif si valorisé.
C'est fondamental. C'est fondamental parce que le nom de Rothschild, du moins sur la place de Paris, a failli disparaître. Et cet actif immatériel dont on a déjà parlé est évidemment essentiel dans le monde des affaires au succès de l'entreprise. L'autre aspect important de l'œuvre de David, c'est le fait qu'il va recruter des collaborateurs qui vont pour beaucoup devenir associés, gérants, dans un club qui s'appelait Entreprise et Cité et qui que l'on appelait à l'époque, presse avait baptisé la bande ABBA.
Oui, tout à fait. Je renvoie les auditeurs à une émission que nous lui avions consacrée avec Michel Auferlet notamment.
Et BBR va lui apporter ses premiers clients, Bernard Arnault, Bolloré ou Thierry Breton. Donc on a une recréation assez rapide finalement, et qui remporte assez vite le succès. Et le succès, on va le vérifier avec la participation, va se concrétiser plutôt, avec la participation de Rothschild aux privatisations du gouvernement Chirac-Balladur en 86. Et en particulier, Rothschild s'occupe de la privatisation de Paribas. Donc c'est une opération extraordinaire qui montre le retour des Rothschild dans le jeu. Et ils deviennent à nouveau un acteur de premier plan, même si la banque n'est que la quatrième banque d'affaires française à l'époque.
C'est tout de même une entrée dans le top 4, comme vous le disiez. Alors, vous évoquez ces années 80, ce sont des décennies, les années 80-90, les deux dernières du XXe siècle, qui sont des décennies de bouleversement pour le secteur financier, qui mettent aussi à l'épreuve l'idée même de capitalisme familial dans le secteur, alors que les professions et les offres de services de ces banques d'affaires évoluent. On en parle dans quelques instants.
Somebody that just loves to learn, and another child grows up to be somebody you just love to burn. Mom loves the both of them, you see it's in the blood. Both kids are good and bound, blood's thicker than the mud. It's a family affair.
It's a family affair.
It's a family affair.
It's a family affair.
It's a family affair de Sly and the Family Stone. Vous êtes bien sûr France Culture et nous poursuivons notre exploration des logiques inhérentes aux grandes familles à la tête de dynasties familiales. Comment les faire perdurer malgré les remous économiques et politiques et malgré les tensions internes à toutes les familles et à plus forte raison lorsque le nom devient capital. Nous en parlons toujours avec Jean-Claude Demas, professeur émérite à l'Université Marie et Louis Pasteur et Arthur Miguel, doctorant en sociologie au sein du laboratoire IRISO à l'Université Paris-Dauphine PSL. Arthur Miguel, on entre de plein pied dans ces années 80, marquées notamment par la nationalisation, mais plus tard par une remontada, on pourrait dire, de la maison Rothschild. Sauf qu'à cette époque-là, c'est aussi l'époque de la financiarisation galopante. Les institutions bancaires sont au centre des préoccupations parce qu'elles prennent un rôle déterminant dans le financement des entreprises. Elles font aussi l'objet d'une régulation plus intense. Vous dites que cette période est vécue comme un choc, et notamment au sein de la maison Rothschild. Mais pour quelles raisons ? On pourrait se dire qu'il s'agit là d'opportunités nouvelles dès lors qu'on est un acteur majeur du secteur financier. Quel bouleversement implique aussi cette financiarisation ?
Je dirais que le premier choc est véritablement lié à la question de la nationalisation et de la reconstruction ensuite. Je pense que, après avoir étudié le sujet, il ne faut pas exagérer les bouleversements qui peuvent avoir lieu à ce moment-là. Comme vous l'avez dit, ça va plutôt être en fait une période d'opportunité, notamment liée aux privatisations. À ce moment-là, Rothschild est en reconstruction et, comme ça a été dit, du fait du réseau de la famille, va avoir un certain nombre d'opportunités. C'est intéressant de voir que le modèle à ce moment-là de David de Rothschild et du groupe Rothschild, ça va en fait être le groupe Lazard. Le groupe Rothschild va un peu calquer ce qui est fait chez Lazard et notamment on va avoir le retour de la société en commandite simple. Rothschild et compagnie, qui est la société de conseil en fusion et acquisition du groupe Rothschild, est une société en commandite simple, et il y a d'autres sociétés en commandite simple au sein du groupe, dans la volonté de s'inscrire dans ce modèle historique des banques d'investissement, des banques d'affaires familiales en fait, comme Lazard à l'époque.
Et ce qui est d'autant plus intéressant, et on en arrive là à la promesse qu'on formulait en début d'émission à Arthur Miguel, mais ce qui est d'autant plus intéressant lorsqu'on sait qu'effectivement Lazard perd ce statut juridique de société en commandite simple, il l'abandonne en tout cas en 2000. Pour quelle raison ? Pourquoi finalement le nom, en tout cas le nom survit, mais pourquoi il y a cette perte-là au tout début des années 2000 ?
Il faut revenir à un élément sur lequel on est passé un peu rapidement un moment, c'est la question en fait de la transmission et de la transmission vers les femmes en fait. Le dernier patriarche de la famille David Veil, donc qui dirige Lazard, n'a que 4 filles. Il est dans l'impossibilité de transmettre la banque, la direction du groupe à une de ses filles.
Parce qu'il refuse que les gendres prennent une quelconque place ou parce qu'il n'y a...
Il va faire une tentative justement avec un gendre, mais cette tentative va échouer. Et donc il va avoir un problème de transmission. À ce moment-là, il va faire appel à un cadre étranger à la famille pour diriger la banque, donc au début des années 2000, donc Bruce Wasserstein, donc qui est un grand banquier de Wall Street, très célèbre, très connu. Bruce Wasserstein va faire le choix d'abandonner le modèle du partenariat pour transformer Lazard en une société anonyme cotée.
Une société anonyme cotée, c'est intéressant aussi, hein, l'entrée en bourse en 2005. Quels bénéfices en sont attendus très, très concrètement, Arthur Nouvel ?
Je dirais que le principal moteur pour moi de cette transformation, c'est le gain que cela va représenter pour les associés gérants de l'époque, qui vont être particulièrement moteurs dans la transformation, puisqu'ils vont bénéficier en fait, des gains de l'introduction en bourse, donc avec les actions qu'ils vont détenir avant, au moment de l'introduction en bourse, ils vont tirer un gain de cette introduction. C'est eux qui vont être à la manœuvre pour justement parachever cette transformation, et c'est cette transformation qui va mener au départ du dernier patriarche de la famille, Michel David Weil. Et c'est à ce moment-là justement qu'on peut considérer que Rothschild est la dernière grande banque d'investissement familiale française.
Jean-Claude Demas, on voit bien que les choses se sont mal passées, en tout cas pour Lazare, du fait de cette règle, hein, vous l'avez dit, ni femme ni gendre. S'il y a eu une tentative de gendre, mais ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'aujourd'hui, les membres de cette dynastie familiale ont conscience de ce potentiel problème-là et ouvrent, on va dire, davantage les horizons aux femmes de ces familles ?
Les dynasties, enfin les familles capitalistes ont conscience, depuis toujours, si j'ose dire. Enfin, dès lors qu'elles se lancent dans l'aventure, elles ont conscience que le problème de la succession et de la transmission est absolument crucial. Il est vital. Si on n'arrive pas à résoudre ce problème, l'entreprise disparaît ou cesse d'être une entreprise familiale. Et donc, il y a traditionnellement, je l'ai dit tout à l'heure en rappelant cette espèce d'adage « ni femme, ni gendre », c'est une règle qui a été suivie très longtemps. Évidemment, on peut se heurter à l'absence physique d'héritier mâle, et là, on a une série de solutions. Soit on fait appel aux filles, c'est un cas assez rare, mais qui a plutôt tendance à se développer. Hein. Et par exemple, dans la branche qu'on pourrait qualifier de genevoise de la famille, les filles de Benjamin, donc qui dirigeait la banque à Genève, il n'a eu que quatre filles, et ce sont les filles que l'on prépare à prendre la suite. L'autre solution, c'est de faire appel à un gendre, et dans le cas de Lazare, ça n'a pas marché parce que Edward Stern était une pièce rapportée, comme tous les gendres, et c'est pour cela que les familles étaient réticentes à intégrer un gendre, parce que il est étranger à la culture familiale et à la culture de l'entreprise. Et dans le cas d'Edward Stern, son comportement a montré qu'il était totalement étranger à l'univers traditionnel de Lazare.
Ce qui fait par ailleurs la force du groupe. Donc on comprend qu'il y a, qu'il y a dissension. Et il y a un autre poste que leur fil Jean-Claude Demas, oui. Mais je suis contente que vous ayez mentionné la branche suisse aussi. C'est un autre, ce qui représentait un avantage finalement des dynasties familiales, à savoir le nom, représente aussi un inconvénient dans le sens où c'est un très gros sujet de conflit. Ça a été l'objet d'un conflit entre la branche française et puis la branche suisse. Je passe les détails parce qu'il serait un peu compliqué à comprendre, mais en tout cas il se trouve que Ariane de Rothschild a assigné son cousin par alliance, donc David de Rothschild, en justice pour concurrence déloyale après une plainte déposée pour utilisation abusive du patrimoine familial. Ça, Jean-Claude Demas, c'est bien la preuve que tout le conflit s'est cristallisé autour du nom. Pour quelle raison, là encore ?
Alors, c'est la deuxième fois, en fait, que ce type de problème surgissait. C'était déjà arrivé en 1937 qu'une branche de la famille reproche à l'autre un comportement en quelque sorte hégémonique et d'utilisation abusive du nom familial. Et Ariane de Rothschild a eu gain de cause et en imposant son point de vue, qui était que chaque branche pouvait utiliser le nom Rothschild, mais à condition qu'il y ait ce qu'elle appelait une différenciation des marques. Et la différenciation se faisait soit par l'adjonction d'un prénom, soit d'un statut. Alors, dans le cas de la Suisse, c'est Edmond de Rothschild, et dans le cas de Paris, la solution qui va prévaloir, c'est Rothschild & Co. Et donc chacun peut utiliser le nom, il n'y a pas de confusion, on ne peut pas se faire passer pour un groupe Rothschild qui embrasserait le tout, et là on voit bien que le nom est un actif absolument essentiel, hein, dans les activités activités à la fois, enfin dans les activités bancaires, mais ce serait le cas dans une entreprise enfin industrielle ou commerciale. Et donc là, comme ça s'est terminé par un compromis sur le nom et qui a abouti également à la disparition de tous les liens capitalistiques, parce qu'il y avait des participations croisées qui avaient été prises quand la banque a été recréée après la nationalisation. Et les liens économiques qu'il pouvait y avoir, capitalistiques, entre les deux branches, et donc elles sont, en quelque sorte, aujourd'hui, totalement autonomes. Et donc on n'a plus, parce que la branche anglaise a disparu, elle a été en quelque sorte absorbée
en 2012,
en 2012 par les Parisiens, et donc on n'a plus que deux branches Rothschild qui sont chacune à la tête de leur propre banque, mais la richesse de la branche suisse est bien plus considérable que la française.
Et voilà pour l'état des lieux final. Un grand merci à tous les deux, Jean-Claude Domas et Arthur Miguel, d'avoir participé à cette émission.